France Culture. Science Chrono, Antoine Beauchamp.
Entre sciences naturelles, médecine et occultisme, les poisons font depuis l'Antiquité l'objet d'un attrait particulier allant de la curiosité au fantasme. À partir du Moyen-Âge, une littérature médicale et vénéneuse d'un genre nouveau s'est développée avec la parution de traités des poisons. Parmi ces traités, celui d'un médecin philosophe italien nommé Pietro d'Abano a connu un succès notable au tournant du XIVe siècle. Science Chrono se demande aujourd'hui comment la médecine vénénologique s'est développée pour répondre à certaines angoisses d'empoisonnement. Bonjour Franck Collin.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire médiévale à l'Université Paris-Nanterre et vous êtes l'auteur du livre « Les écrits sur les poisons » paru aux éditions Brepol en 2016. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous raconter cette histoire vénéneuse des poisons au Moyen-Âge et du lien entre ces poisons et la médecine. Alors avant de nous y plonger, je vous donne le programme de la deuxième partie de l'émission où là aussi il sera question d'une plongée mais d'un autre genre dans l'entretien archéologique. On embarquera à bord d'un bateau d'archéologie sous-marine où j'ai eu la chance d'accompagner une équipe d'archéologues qui plonge sur les épaves de l'opération Dynamo qui a permis, au début de la Seconde Guerre mondiale, de sauver plusieurs centaines de milliers de soldats alliés par voie de mer. Restez donc à l'écoute pour cette sortie en pleine mer du Nord, ce sera dans la deuxième partie. Mais avant cela, on revient à notre histoire médiévale des poisons. Franck Collard, on va retourner ensemble au Moyen-Âge et j'aimerais comprendre la place qu'occupaient les poisons dans la littérature médicale avant cette période médiévale. Mais déjà, on parle de quoi quand on parle de poisons, quand on est médecin antique?
Alors quand on parle de poison, quand on est médecin dans l'Antiquité, on parle d'une substance qui est contraire au corps humain, qui agit sur le corps humain, qui le transforme jusqu'à le transformer en lui-même, c'est-à-dire en une substance mortelle. Les Grecs appellent ça des pharmaka, les Latins appellent ça des venena. C'est une substance de la même nature qu'un médicament, simplement le médicament transforme le corps jusqu'à un certain point en apportant un remède à un mal, alors que le poison, lui, submerge le corps et finit par le faire disparaître.
On a déjà ce terme de pharmaka, pharmacon, qui est un terme assez ambigu finalement, qui est entre le remède et le poison.
Oui, oui, absolument. C'est un terme ambigu. Et ce qui fait le remède ou le poison, bon, c'est la célèbre formule de Paracelse au XVIe siècle, mais qui est valable dès avant, c'est la dose. Comme on dit, l'important, c'est la dose.
Alors, quelle place occupent ces poisons dans les écrits médicaux antiques? On pense bien sûr à Galien, à Hippocrate. Est-ce que c'est une place centrale ou bien est-ce que c'est une place plutôt parallèle, marginale?
Alors, il a été démontré notamment par notre collègue belge Alain Touvède, qui a eu un corpus, donc un ensemble de textes toxicologique ou vénénologique, on pourra peut-être revenir sur la différence entre les deux termes, à l'époque de la Grèce antique, à travers Nicandre, à travers effectivement Dioscoride ou à travers Galien, et une étude qui était menée pour comprendre comment agissaient ces substances et comment leur apporter des remèdes, à travers notamment des médicaments, des antidotaires qu'on appelait des thériaques, pas la thériaque avec un grand T, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais des thériaques et des moyens pour s'immuniser contre le poison. Notamment, il y a le cas célèbre du Mithridate, qui est une thériaque, qui porte le nom de ce roi Dupont qui craignait qu'on l'empoisonnât et donc qui s'est immunisé en prenant des petites doses de poison.
Donc, mithridatisation.
La mithridatisation, et donc c'est un sujet qui, effectivement, intéresse beaucoup les Grecs.
Alors, à cette époque-là, on parle bien sûr de la théorie des humeurs. Comment se conjugue poison, théorie des humeurs? Quelles questions soulève, en tout cas, cette présence des poisons dans cette médecine antique?
Alors, dans la médecine antique, on parle effectivement de théorie des humeurs, et en amont, si je puis dire, de la théorie des humeurs, il y a la théorie des qualités premières, des quatre qualités qui provoquent ensuite des humeurs, qui sont la sécheresse, l'humidité, le froid, et la chaleur. Et donc, on essaye de quantifier, finalement, ces qualités premières, et c'est lorsqu'elles sont en excès, eh bien, qu'une substance devient une substance nuisible, voire une substance létale, et tout ça, donc, entre dans une vision de la nature extrêmement cohérente, avec quand même cette difficulté qui restera assez obscure, jusqu'à l'époque du Moyen-Âge, de la capacité de quantifier les qualités premières. Une qualité première au quatrième degré, par exemple une chaleur au quatrième degré, comment savoir qu'elle est au quatrième degré et pas au troisième degré? Mais donc il y a une approche parfaitement rationnelle, à défaut d'être scientifique au sens actuel, mais une approche parfaitement rationnelle qui va parcourir les siècles qui séparent l'Antiquité du Moyen-Âge, qui va passer aussi dans la science arabo-musulmane, hein, qui a aussi des influences du côté de l'Inde, mais qui va récupérer toute une série d'idées de la science grecque, mm-hmm. et puis qui ensuite, par le jeu des traductions, par le jeu des mobilités savantes aussi, va venir dans l'Occident médiéval.
Alors, si on parle de ces grandes figures finalement de l'histoire médicale, on pense à Galien, est-ce qu'on peut déjà avoir une idée de la présence de ces poisons dans les écrits de Galien?
Dans l'œuvre galénique, là où il est question de poisons, c'est surtout dans les traités sur les thériaques, mm-hmm. hein, la thériaque à Pison, par exemple. Alors, il a été prêté à Galien, parce qu'on ne prête qu'aux riches, la rédaction d'un traité des poisons. On trouve ça en particulier dans les sources musulmanes, hein, sous la plume des médecins arabo-musulmans, mais on n'a jamais retrouvé en tant que tel un traité des poisons écrit par Galien. Mais d'une autre façon, le poison est très présent dans son œuvre, parce que finalement, tout médecin peut être amené à soigner, à porter remède à un empoisonnement.
Donc Francola, on peut le dire, le poison n'a pas une place particulière en tant qu'objet d'une œuvre complète de Galien. C'est une présence diffuse dans ses œuvres, et il faut attendre finalement le canon d'Avicenne, ce médecin persan du Xe siècle, pour avoir une partie entière d'une théorie médicale consacrée au poison. Que dit Avicenne de ces poisons?
Alors, il faut attendre Avicenne dans la rédaction de son canon, hein, parce que on a prêté aussi à Avicenne un traité à part, mais en réalité, c'est une partie, plusieurs parties d'ailleurs du canon qui traite des poisons, et Avicenne, à partir de la science grecque et aussi de la science indienne, essaye d'approfondir cette définition des poisons et essaye de comprendre comment les poisons agissent, et c'est lui l'introducteur alors d'un concept qui va être beaucoup utilisé parce qu'il est bien pratique et parce qu'à mon avis c'est un peu tautologique, mais qui consiste à dire qu'un poison agit parce que c'est un poison, par sa toute substance, par sa forme spécifique, par ses qualités occultes, c'est-à-dire des vertus qui sont au-delà des qualités premières en excès dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui sont, c'est ce que la médecine, notamment occidentale, va de plus en plus vouloir prouver, qui sont dus aux astres, hein, qui sont dus à l'influx céleste, comme l'on dit. Et donc cette notion de toute substance ou de forme spécifique va devenir un outil d'explication des poisons et également de soins des poisons tout à fait essentiel.
Qu'est-ce que ça change par rapport à la conception galénique du poison, cette forme spécifique, ce concept qui est bien pratique, comme vous le dites?
Ça change que, comment dire, c'est au-delà d'un pharmacone. Mm-hmm. Le poison est au-delà d'un pharmacone, puisqu'il n'est plus réductible à la théorie des qualités premières. Donc il y a autre chose, caché peut-être derrière les choses, et ça regarde aussi, la science des poisons regarde aussi vers le secret, vers l'occulte, vers peut-être la magie naturelle, hein, vers ces secrets de la nature, donc, que les médiévaux, les scolastiques, notamment, essayent de dévoiler.
Cette association poison-occultisme, elle est constante dans l'histoire de l'humanité, on pourrait dire, ou bien est-ce qu'elle s'intensifie à ce moment-là?
Elle est constante, elle est déjà présente à l'époque grecque ou à l'époque romaine, pas seulement dans les écrits scientifiques, mais lorsqu'on parle de crime de poison, c'est un crime caché, avec une arme cachée qu'on administre de manière dissimulée. Donc l'occulte a une très grande part dans la réflexion sur les usages criminels, mais aussi sur la nature du poison lui-même.
Quand on parle de poison, on pense bien sûr à son corollaire, l'antidote. Là aussi, comment ce rapport à l'antidote évolue-t-il entre Galien et Avicenne? Est-ce que la forme spécifique permet de mieux trouver, de mieux déterminer, définir des antidotes au poison?
Alors, l'antidote au poison, compris comme pharmacone avec un excès de qualité première, est assez simple à mettre en place. Doit avoir des qualités premières opposées. Par exemple, pour un poison chaud au quatrième degré, on va prendre un remède, une substance qui sera froide. Alors, un degré pas trop élevé non plus, parce que quatrième degré de froid, ça peut précipiter aussi dans la mort. Avec la forme spécifique, donc, qui est une sorte d'approche globale, eh bien, l'idée, c'est que face à des poisons qui agissent de toute substance, il va falloir réagir avec un composé, qu'on appelle la thériaque, la grande thériaque, dont les modalités d'action sont liées à la fois à ces ingrédients, plus d'une soixantaine, dont de la chair de vipère à laquelle on a préalablement coupé la tête, et mais aussi des vertus qui viennent de l'influence céleste. Donc, en gros, à la forme spécifique du poison, répond un remède, la thériaque, dans lequel joue aussi cette idée de forme spécifique.
Et cette thériaque, on va la retrouver bien sûr dans ce traité des venins. On en arrive à présent au Moyen-Âge et à ce traité écrit entre la fin du XIIIe siècle et le début du XIVe siècle par un médecin, astrologue, philosophe italien, Pietro d'Abano. Pour plonger dans le cœur de cette fascination-répulsion médiévale pour les poisons, je vous propose d'écouter un extrait du chapitre 2 du traité des venins. La lecture vous est faite par Laurent Blanpin, c'est l'archive de Science Chrono.
Les venins se divisent en trois manières, comme le genre se divise en espèces. Avicenne et Averroès en font de trois sortes. L'une minérale, l'autre végétale et la dernière animale. Sous la minérale sont comprises toutes choses engendrées sous terre. Contraires et pernicieuses à la nature humaine, comme le mercure, le plâtre, le cuivre et quelques pierres comme l'aimant, la pierre arménique non lavée, le plomb brûlé, l'arsenic réalgar et plusieurs autres choses. Sous l'espèce végétale sont comprises toutes sortes de plantes de contraire nature à notre alimentation, lesquelles changent notre nature et ne peuvent être changées, comme sont l'élébore, le turbit noir, le napel et la gomme, ainsi que quelques champignons ou potirons. Mais des animaux, tous ceux sont vénéneux, dont la nature est contraire à la complexion humaine et ennemie de son espèce, tels que sont les serpents, dragons, tigres ou vipères, lièvres de mer, poissons froids, chairs pourries et animaux tués par la foudre ou morts d'eux-mêmes, enragés et plusieurs autres que nous citerons plus tard.
Voilà, Franck Collard, un aperçu de ce mode d'emploi des venins par Pietro d'Abano. Avant qu'on fasse une petite explication de texte, j'aimerais que vous nous présentiez ce personnage. Que peut-on en dire ?
Alors, Pietro d'Abano, c'est un personnage majeur de l'histoire des sciences, de l'histoire de la pensée, de la philosophie, de la médecine. Il a eu une existence tout à fait fascinante, puisque italien d'origine, il a voyagé beaucoup, il est allé à Constantinople, il connaissait le grec, il avait des contacts directs avec les manuscrits grecs. Il est venu à Paris aussi, où il a eu quelques mailles à partir avec l'Inquisition, parce que c'est un esprit fort. Il est ensuite revenu en Italie, notamment à Padoue, où il a enseigné. C'était une grande université pour des études médicales. Il a écrit toute une série d'ouvrages. Le plus célèbre, qui d'ailleurs lui a donné parfois son surnom, c'est celui qu'on appelle le conciliator ou le conciliateur, où il essaye de concilier les connaissances en philosophie naturelle et en médecine. Et puis, il y a ce traité des poisons, qui semble avoir été écrit vraiment au crépuscule de sa vie, puisque dans la dédicace, il est question d'un pape qui est sans doute le pape Jean XXII, qui a été élu un pape d'Avignon en 1316, alors que Pietro d'Abano est mort en 1316. Alors, il a aussi une existence posthume un peu agitée, puisqu'il a été accusé post-mortem par l'Inquisition, qui aurait voulu déterrer son corps et lui infliger le supplice, finalement, des hérétiques ou des sacrilèges. Il avait une manière rationaliste ou plutôt naturaliste d'expliquer un certain nombre de miracles de la Bible, par exemple la résurrection de Lazare.
Alors là, vous plantez un décor, un cadre historique, sociologique, social, comme souvent, voire toujours dans l'histoire des sciences, on peut pas se départir de ce cadre-là. Alors, qu'est-ce qui fait qu'au Moyen-Âge, tout d'un coup, y ait une espèce de, comme je le disais, de fascination-répulsion pour les poisons?
Alors effectivement, le travail de Pietro d'Abano, il part d'un contexte qui est un contexte, on va dire, socio-politique, avec des États qui s'affirment, des cours qui se développent, des princes dont le pouvoir est d'autant plus puissant qu'il est aussi considéré comme précaire. Et donc, au cours du XIIIe siècle, à l'époque de Frédéric II, déjà l'empereur germanique, et puis ensuite, se développe une sorte de hantise du poison, poison qui risquerait de mettre fin à un règne de roi, par exemple, ou de pape, et qui plongerait donc la société dans un chaos indescriptible. Et donc, il y a cet premier aspect d'une demande, demande sociale, c'est un peu exagéré, parce que c'est une demande élitaire, hein, mais c'est une demande.
C'est le cas d'ailleurs de ce traité qui répond à une commande.
Qui répond à une commande. Pietro d'Abano explique effectivement qu'il a répondu à une commande qui est la commande sans doute d'un pape Jean XXIII, qui par ailleurs, on le sait, durant son règne a eu affaire à des empoisonneurs. Donc ça tombait bien. Hein. Il est mort très vieux d'ailleurs, 18 ans après son élection. Donc il y a une demande sociale, une peur, on va dire, obsidionale du poison, non seulement dans les cours, mais également d'une peur collective, avec des affaires célèbres, notamment l'histoire des empoisonneurs de Puy, hein, des lépreux empoisonneurs de Puy, liés aux juifs et aux musulmans, excusez du peu, qui en 1321 sont censés mettre des poisons dans les rivières, dans les puits, dans les cours d'eau, pour finalement que l'islam puisse s'emparer de la chrétienté. Donc il y a ce contexte de vive inquiétude, ce contexte qui croit que il y a des forces souterraines, hein, qui menacent véritablement les pouvoirs établis, et il y a également, dans une logique qu'on peut assez comprendre, qui est celle de la scolastique, qui est celle de Thomas d'Aquin, une sorte de prétention de l'esprit humain à tout comprendre de la nature. Alors là, c'est plutôt une raison, on va dire, intellectuelle, mais aussi socio-culturelle, de même que Thomas d'Aquin pensait qu'avec la raison, la foi pourrait être comprise. De la même manière, on pense que on peut dévoiler les secrets de la nature, comprendre la nature. Et donc, il y a également, dans ces commandes de traiter des poisons, par des papes, des cardinaux ou des princes, une curiosité intellectuelle qu'il ne faut pas mettre de côté, et peut-être aussi une envie de se distraire, parce que quand vous avez la description, je sais pas, d'un dragon terrible qui crache du venin, eh bien, la lecture peut en être agréable à l'écoute, hein, à cette époque-là, pour les princes du monde.
Alors, donc, il y a plusieurs dimensions dans cet empoisonnement, comme on vient de le comprendre avec vous, Franck Collard. Vous avez d'ailleurs écrit un livre en 2003 qui s'appelait « Le crime de poison au Moyen-Âge ». Alors, je suis curieux, comment et pourquoi on s'empoisonnait au Moyen-Âge, au-delà, justement, de ces fantasmes que vous décriviez à l'instant?
Alors, le crime de poison, bon, c'est un crime que j'ai essayé de quantifier, c'est très difficile, parce que comme c'est un crime qui ne se remarque pas forcément, il y a un chiffre noir, hein, du crime de poison, c'est un crime qu'on rencontre, évidemment déjà dans l'Antiquité grecque et l'Antiquité romaine, qu'on rencontre aussi au Moyen-Âge, chez Grégoire de Tours, il y a des affaires d'empoisonnement, qui a une coloration élitaire quand on ne dispose pas de sources documentaires riches, comme à la fin du Moyen-Âge. Et quand on en dispose, je veux dire des archives judiciaires, par exemple, on s'aperçoit que c'est un crime assez commun, qui n'est pas forcément féminin, même si les femmes sont réputées plus empoisonneuses que les hommes, qui n'est pas forcément réservé aux cours, mais que l'on peut trouver chez des artisans, chez des bons bourgeois, avec des enjeux qui sont extrêmement triviaux et qu'on rencontre à toutes les périodes, des héritages à anticiper, par exemple, des jalousies, des haines. Donc, c'est un crime non pas ordinaire, parce que statistiquement, si on peut parler ainsi, de manière un peu abusive, il ne représente pas une grande part de la criminalité, mais c'est un crime que l'on rencontre, et surtout, c'est ça l'important, à la fin du Moyen-Âge, que l'on croit voir de plus en plus, hein, parce qu'il y a une perception de la menace vénéneuse qui hypertrophie la
réalité. Une espèce de biais statistique.
Voilà, un biais statistique, un ressenti, comme on dirait aujourd'hui.
Ouais. Alors, il y a aussi cette dimension religieuse, on en parlait, on l'évoquait, on l'a suggéré tout à l'heure, Franck Collard, mais c'est une anomalie finalement dans cette pensée médiévale qui est très ancrée dans une occidentale, du moins très ancrée dans un écrit biblique avec une Genèse. Comment est-ce que cette présence dans la nature de poison crée un problème d'une certaine façon métaphysique?
Alors le problème métaphysique, c'est de comprendre comment Dieu, qui est le créateur de toutes choses et qui est un Dieu de bonté, a pu laisser la nature être emplie de bêtes venimeuses ou de plantes vénéneuses. La réponse est donnée alors assez tôt, par exemple par Hildegard de Bingen, hein, qui n'a pas écrit de traité des poisons, mais qui a réfléchi sur la question. C'est la conséquence du péché originel, c'est la conséquence de la chute. Hein, au paradis terrestre, avant que Adam et Ève ne commettent la faute que l'on connaît, eh bien, le serpent n'était pas dangereux, le loup non plus, le champignon vénéneux n'existait pas. Et donc, c'est pour punir les hommes que Dieu a semé dans la nature des substances qui lui sont hostiles, mais c'est aussi pour montrer sa miséricorde qu'il a mis des substances qui peuvent servir de remède au poison, donc des antidotes. Et ça, c'est une vision extrêmement intéressante, parce qu'elle s'articule aussi, avec, au XIIe et surtout au XIIIe siècle, l'idée que la création, la nature, la matière est bonne, hein, ce qui n'est pas accepté par tout le monde, notamment les hérésies cathares, hein, les hérésies anti-matérialistes. Et donc, il n'est pas fortuit que le premier auteur, avant Pietro d'Abano, d'un traité des poisons en latin, ce soit un frère franciscain
oui. Juan Gil de Zamora.
Juan Gil de Zamora, qui écrit un traité pour le ministre général de son ordre, hein, ministre d'ailleurs qui serait mort empoisonné, paraît-il, donc c'est pas sûr qu'il ait lu le traité qui lui avait été dédié, et dont le cœur de la réflexion, c'est de montrer que Dieu, dans sa bonté, offrira toujours à l'homme empoisonné ou au médecin de quoi remédier au mal dont il souffre.
Alors Franck Collard, c'est important que vous mentionniez Juan Gil de Zamora. On peut parler aussi du médecin juif du Caire Maïmonide, qui au XIIe siècle avait écrit le tout premier traité d'hygiène populaire, qui lui aussi parlait des poisons. On est donc dans un environnement global où émerge ce forme de traité des poisons. Quels sont les points communs à ces textes-là et pourquoi ils se démarquent finalement des autres traités médicaux plus généraux?
Ils se démarquent des autres traités parce que ils deviennent un genre en eux-mêmes. Avant Pietro d'Abano, avant Juan Gil de Zamora, les poisons sont abordés dans des sommes de médecine. Le canon d'Avicenne, ou parfois en Occident, dans des sommes de médecine le long de chapitres qui sont assez importants. Mais le besoin d'avoir le développement d'un genre particulier répond donc à cette curiosité, à cette demande, et produit des œuvres, alors non pas standardisées, parce qu'il y a malgré tout des variantes, hein, mais qui sont inspirées par la bonne cause, c'est-à-dire comment permettre aux chrétiens soit d'éviter le poison par une sorte de régime préservatif, soit de soigner le poison par une sorte de régime curatif, et donc en organisant ces textes de sorte qu'ils ne passent surtout pas comme une sorte de réservoir de recettes d'empoisonnement.
C'est ça l'ambiguïté de ces traités des poisons, c'est que ça peut être aussi un mode d'emploi parfait pour l'empoisonneur en germe.
Alors, pour autant que des recettes soient données, je reprenais l'article Réalgar, qui est un poison minéral qui était dans l'archive, me semble-t-il, tout à l'heure. Pietro d'Abano ne dit pas où on trouve du Réalgar et comment on fait pour l'utiliser. Mais dans d'autres traités, on peut avoir quelques détails sur la manière d'obtenir de l'arsenic sublimé. Par exemple, les auteurs qui dotent assez souvent, pas toujours, mais assez souvent leur traité de prologue s'expliquent justement pour qu'il n'y ait pas de malentendu. C'est pour le bien de l'humanité, le bien de la chrétienté, qu'ils décrivent les poisons pour mieux en déterminer les remèdes.
Si on se plonge, Franck Collard, dans les pages de ce traité des venins de Pietro d'Abano, il s'organise comment? Quel est justement le déroulé de ce texte à valeur informative, scientifique, on va le dire, avec un terme un peu anachronique pour le coup?
Alors, il se déroule d'une manière différente de celui de Juan Gil de Zamora. C'est assez intéressant. En revanche, c'est le traité de Pietro d'Abano qui va donner en quelque sorte un modèle d'écriture, même si, bon, encore une fois, il y a des variantes. Pietro d'Abano commence donc par ce prologue où il justifie sa démarche, et puis ensuite, il se lance dans des considérations d'abord sur le poison en général. Hein. Qu'est-ce que c'est que le poison? Quels sont ses modes d'action? Comment peut-on diviser les poisons de la création? Et dans le chapitre dont a entendu la lecture, il y a un premier mode de division, c'est la division par règne, comme on dirait aujourd'hui, règne animal, végétal et minéral. Voilà. Et puis après, il essaye de les classifier selon les modes de contact avec le corps. Il y a des poisons qu'on ingère, il y a des poisons que l'on touche, il y a des poisons qui sont inoculés par une piqûre. Et puis, dans un dernier temps, il s'interroge sur ce qu'il appelle la force du poison, comment elle agit, c'est-à-dire soit par qualité première, à son époque, on pense qu'il y a des poisons qui agissent par qualité première, ou soit par la forme spécifique qui l'intéresse beaucoup. Et puis ensuite, il passe à une description d'à peu près 70 poisons, en suivant l'ordre des règnes, et il achève son œuvre par des considérations sur la thériaque, comment est-ce que la thériaque agit, à une époque où c'est une grande question scolastique, notamment à l'université de Montpellier. Il y a des questionnes de Thériaca. Et il annonce, ça c'est très intéressant, un dernier chapitre qu'il n'a pas écrit, mais qui a été écrit par quelqu'un qui a publié l'œuvre, qui l'a fait imprimer à la fin du XVe siècle, qui est-il possible que des poisons puissent agir à terme, c'est-à-dire à retardement? Et si ce chapitre n'a pas été écrit, il m'a toujours semblé que c'était parce que précisément, il avait un côté un peu sulfureux, parce que d'écrire des poisons à terme, ça peut être quand même donné à des criminels moyen d'empoisonner un prince ou un pape sans se faire remarquer. Voilà, le crime parfait.
On est en plein dans Le Nom de la Rose, ça nous fait penser à ce livre
d'Umberto
Eco.
Absolument.
Alors, on parlait aussi tout à l'heure, quand j'évoquais la figure de Pietro d'Abano, je le présentais comme un philosophe, médecin, astrologue. On a fait une émission entière sur l'astrologie médicale au Moyen-Âge, et je vous renvoie à son écoute, mais quelle place occupe dans ce traité des venins de l'astrologie, dans ce texte de Pietro d'Abano?
L'astrologie occupe la place qui est celle de la forme spécifique et de la toute substance, c'est-à-dire la croyance, hein, selon laquelle les astres du ciel peuvent transmettre des vertus occultes, des vertus irréductibles aux qualités premières, aux substances. Et on peut trouver aussi une réflexion astrale ou astrologique à propos de la thériaque, dont, l'effet cocktail, hein, si on veut parler comme aujourd'hui, serait dû non pas seulement à l'addition des vertus de ces différentes composantes, mais aussi à l'action des astres. Mmh. Et par ailleurs, on peut assez facilement trouver, au XVIe siècle, ça sera encore le cas, des correspondances entre des poisons particuliers et des planètes. Je pense au Mercure, hein, ça c'est le meilleur exemple.
Mmh. On n'a pas encore l'imprimerie à l'époque de Pietro d'Abano, mais on a des copies. Alors est-ce que, et c'est comme ça qu'on mesure le succès d'un ouvrage, est-ce que ce livre de Pietro d'Abano a connu un grand nombre de copies et a connu un succès, on va dire pas populaire, mais parmi les gens qui savaient lire, un grand succès?
Le De Venenis, donc en latin, de Pietro d'Abano, c'est le best-seller de la fin du Moyen-Âge. Hein. J'ai essayé de répertorier 80 à 100 manuscrits. On en retrouve tous les jours à chaque fois qu'on cherche un petit peu. C'est un traité donc qui a été beaucoup copié, qui a beaucoup circulé, qui a été aussi imprimé, hein, à partir de 1470 à peu près, parfois avec le conciliator, hein, parfois à part, parce que c'est une œuvre finalement assez brève, hein, mais les imprimeurs l'ont beaucoup imprimé. C'est imprimé encore jusqu'à la fin du XVIe siècle, et c'est une œuvre qui a été traduite en italien, enfin dans les langues italiennes. Il y a une recherche qui manque, qu'il faudrait faire, sur la tradition italienne de Pietro d'Abano, et en français.
Et en français.
J'avais travaillé en français sur une traduction qui date du début du XVe siècle, destinée à qui? Au maréchal de Boucicaut, qui va devenir gouverneur de Gênes, parce que les Italiens, comme vous savez, ont une réputation de maniement du poison facile. Mmh. Et donc, il dit à Boucicaut, voilà, vous allez partir à Gênes, attention, voilà, le traité de Pietro d'Abano, qui n'est pas capable de lire en latin, le maréchal de Boucicaut, sans doute, je vais le traduire en français.
En guise de conclusion, pour terminer cette première partie de Science Chrono, Franck Collard, que nous dit la multiplication de ce genre de traité des poisons sur l'évolution de l'histoire de la médecine au Moyen-Âge? Est-ce que c'est une anomalie dans cette histoire de la médecine? Comment ça s'intègre dans cette histoire de la médecine? Et voilà.
Cette multiplication des traités des poisons illustre effectivement le développement de la pensée médicale, ses ramifications, hein, parce qu'il y a d'autres traités thématiques qui sont écrits, les traités des urines par exemple, hein, dont ma collègue de Nanterre, Laurence Moulinier, est la grande spécialiste, voilà, qui est venue à ce micro. Il y a des traités sur la peste, hein, une maladie particulière, en rapport d'ailleurs avec le poison, on n'a pas le temps d'en parler, mais c'est intéressant. Donc, c'est l'illustration d'une recherche par les esprits de comprendre la nature en allant de plus en plus sur des secteurs étroits pour les comprendre, et la multiplication des traités inspiré souvent par Pietro d'Abano, jusque, on va dire, à la fin du XVIe siècle, eh bien, c'est le signe que, à la fois, c'est une matière qui fascine et qui hante les esprits, et que, en même temps, c'est un domaine où les médecins peuvent déployer une réflexion extrêmement intéressante sur les substances, sur les pharmacas, avec donc toute cette culture gréco-arabo-médiévale, qui cesse à peu près à la fin du XVIe siècle. Il y a un traité d'Antoine Boucard en 1592 qui ne fait plus du tout allusion aux écrits qui l'ont précédé.
Merci beaucoup à vous, Franck Collard, en tout cas d'être venu nous raconter cette histoire vénéneuse des traités des poisons au Moyen-Âge. Je rappelle le titre de votre livre, Les écrits sur les poisons, c'est paru aux éditions Brepol. Merci encore.
Merci.
Que venin de scorpion et liqueur de curare. La ciguë de Socrate, le datura d'Hamlet, la spic de Cléopâtre, l'eau d'un homme de Juliette, le poison des esthètes, l'opium de Baudelaire, le pavot des poètes. au milieu des éthers, sans rien à compter de ce filtre violent, silencieux et damné.
Poison par Juliette dans Science Chrono sur France Culture pour tourner la première page de l'émission. On laisse maintenant à quai cette histoire des sciences et on plonge dans l'entretien archéologique pour une émission Archéologie sous-marine.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
C'est l'histoire d'une opération militaire qu'on appelle Opération Dynamo ou Miracle de Dunkerque. Pendant 9 jours en 1940, l'armée britannique organise l'évacuation par bateau de plus de 330 000 soldats alliés coincés par l'armée nazie à Dunkerque et réalise l'un des plus grands sauvetages de l'histoire. Sur les 1100 bateaux de tout type réquisitionnés pour cette opération de la dernière chance, plus de 300 coulent en mer du Nord. Aujourd'hui, une équipe d'archéologues maritimes et de plongeurs aguerris plonge sur ces épaves pour les documenter et sauvegarder par les cette histoire d'un fait militaire dont les vestiges disparaîtront à terme sous les effets de la corrosion. Pour l'entretien archéologique du jour, nous avons eu la chance d'embarquer sur le bateau nommé le Zef Nordais et d'accompagner cette équipe de plongée archéologique pendant toute une journée. On part en mer sans plus attendre. Cécile Sauvage, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes archéologue et conservatrice du patrimoine au département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, le DRASM. Et bonjour Claire Destanque.
Bonjour.
Vous êtes archéologue maritime au sein de l'association Archéos. Merci beaucoup de m'accueillir à bord aujourd'hui de ce bateau qui va vous permettre de plonger sur les épaves de l'opération Dynamo. Alors Claire Destanque, tout le monde ne connaît pas en France l'opération Dynamo. C'est un peu notre Alésia des temps modernes. Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'opération Dynamo, c'est une opération d'évacuation qui a eu lieu du 26 mai au 4 juin 1940 et qui a permis à 338 226 soldats d'être français et britanniques, enfin britanniques principalement, et français et un peu belges, d'être évacués vers l'Angleterre au cours de 9 jours et 9 nuits assez intenses. Il y a entre 1100 et 1500 bateaux qui ont participé à cette évacuation et 305 de ces navires ont été perdus durant ces 9 jours et 9 nuits.
1100 bateaux, pas que des bateaux militaires, c'était des bateaux de tout type.
Exactement, c'était vraiment des bateaux de tout type. Ils ont vraiment appelé tous les bateaux disponibles pour pouvoir évacuer un maximum de soldats alliés. Donc ça va du navire de guerre au navire qui avait été modifié pour la guerre en 1939, mais aussi des navires de transport, des cargos, des paquebots, des navires de pêche, des navires de service comme des remorqueurs et puis des navires de plaisance, les little ships.
Vous êtes une chercheuse complète puisque vous plongez sur ces épaves, mais vous les avez documentées largement avant dans un travail de mémoire. Est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots ce travail de recherche préalable ?
Alors c'était du coup lors de mon master d'archéologie maritime. C'est mon mémoire en fait de master d'archéologie maritime qui a été dirigé par Cécile Sauvage. Et du coup pendant 2 ans j'ai vraiment fait des recherches sur chacun des navires perdus de l'opération Dynamo. Pas sur les 305, ça aurait été un peu trop, mais sur 168, on avait décidé de mettre à part tous les petites unités, les canots de sauvetage et les navires de plaisance de petite taille, parce qu'on ne les retrouvera pas sous l'eau maintenant. Du coup, j'ai pu faire des recherches assez poussées sur 168 navires et vraiment découvrir leur histoire, donc leur histoire personnelle dans la grande histoire de l'opération Dynamo. Et ils ont pour certains des destins très très différents. Donc certains reposent sous l'eau à l'heure actuelle, que ce soit en eau française mais aussi en eau belge et en eau britannique. Mais il y a une partie assez conséquente qui a été renflouée et réparée durant l'occupation puisque les Allemands avaient besoin de remettre le port de Dunkerque en service.
Quand on pense à des épaves, on pense parfois à des très vieilles épaves antiques. Quel intérêt archéologique représente ces épaves plus récentes, on va dire, et de cette opération qui date de 1940 ?
Les documenter, ça nous permet d'avoir des éléments de détail. On n'est pas là pour réécrire l'histoire de Dynamo, mais on est vraiment là pour récupérer des éléments de détail sur ces épaves, qui sont des épaves métalliques qu'on pense très solides, mais qui en fait, peut-être dans une centaine, 200 ans, du fait de la corrosion, ne seront plus là du tout. Et donc les documenter maintenant, ça permet aussi de les préserver d'une certaine manière.
Cécile Sauvage, quels ont été les travaux préalables nécessaires pour vous permettre aujourd'hui de plonger sur ces épaves ?
Alors, il n'y a pas eu de campagne de fouilles à proprement parler. Nous, quand on parle de fouilles, c'est vraiment
l'enlèvement de sédiments pour accéder à une structure comme une épave. Là, les épaves sont bien conservées. On a vraiment les structures qui sont accessibles directement sans enlever de sédiments. Ces épaves, pour la majorité, elles étaient connues des plongeurs de la région de Dunkerque. Le travail de Claire a permis de compléter certaines données, de comparer le fait de faire un travail d'archive permet de comparer les différentes sources, de vérifier si toutes les sources disent la même chose, notamment en termes de position d'épave. Donc la première opération qu'on a faite sur Dynamo, c'est en 2023, on est venu avec notre navire de recherche, l'André Malraux. On a utilisé un appareil qui est fixé sous la coque du bateau, qui s'appelle un sondeur multifaisceau. En fait, qui va envoyer des ondes acoustiques, donc des ondes sonores. Le son va rebondir sur le fond marin. L'appareil va enregistrer le signal retour et grâce à ça, il détermine les profondeurs qu'on va avoir sous notre navire de recherche. Donc, s'il y a une ride de sable sur le fond, il va pouvoir le voir. Mais s'il y a une épave posée sur le fond, il le voit aussi. Donc, on fait en une heure toute une série de passages dans différentes orientations autour du site. Et grâce à ça, on arrive à avoir en fait une sorte de modélisation 3D du volume de l'épave. Donc on n'a pas l'apparence de l'épave, c'est pas comme une photo, ce sont des images que nous on traite ensuite, nos collègues géophysiciens, donc notamment Alexis Rocha et Marc James qui avaient travaillé sur l'opération, font tout un travail de traitement pour rendre les images lisibles. Et notamment quand on commence, là, il faut avoir à l'esprit qu'on est dans des zones à marée, donc quand on va commencer l'acquisition, on a une certaine hauteur d'eau, et puis quand on finit l'acquisition au bout d'une heure, une heure et demie, la hauteur d'eau a changé, donc il faut corriger les profondeurs en fonction de ce paramètre-là. Et donc il y a un petit travail effectivement de traitement derrière pour avoir des images qui sont bien lisibles. L'avantage de ce travail-là, donc là c'est vraiment idéal de le faire dans une zone comme Dunkerque, parce qu'on a des masses métalliques importantes, donc on a du volume, et on a peu de fond, puisqu'on a jusqu'à 40-50 mètres de profondeur, pas plus. Donc l'appareil, du coup, est vraiment adapté. Donc cet appareil nous a donné vraiment une vision d'ensemble des épaves. C'est précis au centimètre près, on peut reprendre les dimensions, la longueur du navire conservé, la largeur, on peut même mesurer parfois les cales, on peut voir des éléments de détail, parce que c'est assez précis, on peut deviner la présence d'un guindeau, la présence de certaines structures. Et on voit aussi l'état de conservation global. Est-ce que l'épave est couchée sur un côté? Est-ce qu'elle a été torpillée? Ça, on peut le comparer avec les archives et ça fonctionne assez bien. Donc cette vision d'ensemble, c'est vraiment une donnée nouvelle parce qu'à Dunkerque, donc, quand on plonge, comme beaucoup d'endroits, en fait, on voit l'épave petit morceau par petit morceau. Et donc quand on a un site qui fait 150 mètres de long, parfois, bah là, avoir la vision d'ensemble, c'est vraiment précieux. Ça nous sert aussi avant les plongées pour nous orienter. Et on a eu la surprise de voir qu'en fait certains plongeurs de Dunkerque connaissaient parfois très bien certaines épaves, avaient beaucoup plongé dessus. Et quand on leur montre l'image du multifaisceau, ils sont surpris de voir que finalement la coque du foudroyant est pliée en deux. Ils n'imaginaient pas comme ça au fond.
Alors on a parlé de la campagne de 2023, 2024, il y a eu une autre campagne. Là vous avez commencé à plonger, c'est ça, sur ces épaves, Claire Destin ?
Tout à fait, c'était la première campagne d'expertise en plongée qui a été financée par la communauté urbaine de Dunkerque. C'est une campagne qui a été portée par l'association Archaeos en partenariat avec le DRASM, puisque du coup Cécile Sauvage a été présente sur toute la campagne, ce qui était un énorme plus, puisque moi c'était c'était ma première vraie expertise en plongée. Et on a eu une météo assez difficile. Mais on a quand même réussi à expertiser 6 épaves sur les 14 prévues. Et par contre, on a pu également expertiser les 5 épaves qui se trouvent sur l'estran et qui sont accessibles au très grand coefficient de marée basse et qui sont aussi très très chouettes à voir sur les plages à l'est de Dunkerque.
Vous parlez des conditions. On n'est pas en Méditerranée, ici on est en mer du Nord. C'est un peu moins agréable, facile on va dire. C'est pas du tout la plongée de plaisance que vous pratiquez. Alors quelles sont ces conditions de visibilité, de marée, etc.
Donc on plonge à mi-marée, à l'étale de courant. Et c'est vrai que par rapport à la Méditerranée, on n'a pas 15-20 mètres de visibilité. Ici, on est vraiment très très contente quand on a 4 mètres. La semaine dernière, on a fait des plongées où on avait 20 cm de visibilité au mieux. Et c'est vrai que c'est très compliqué dans ces cas-là de documenter les vestiges et même parfois de les trouver avec une si faible visibilité. Mais là, depuis la fin de la semaine dernière, comme on est un peu plus au large, c'est beaucoup plus facile et les visibilités pour Dunkerque sont très belles.
Alors aujourd'hui, on a de la chance, il fait très beau. La mer est plutôt calme, ça tangue un petit peu. Là, je suis un petit peu en train de faire mon twist personnel. Cécile Sauvage, on a besoin de quoi quand on plonge comme ça sur une épave de l'opération Dynamo? Quels sont les instruments que vous allez emmener, vous, en tant qu'archéologue, pour documenter ces épaves?
Alors, quand on plonge sur ces épaves, là, le travail qu'on fait, c'est vraiment un travail d'expertise. C'est-à-dire qu'on essaye en une plongée, si on a plus de temps sur l'opération, on essaiera de faire deux plongées sur chaque site, mais en une plongée, on essaye déjà d'aller à l'essentiel. Donc c'est assez exigeant parce que tout va très vite et quand on a 20 minutes de temps de travail au fond, il faut chercher. Donc on prépare beaucoup en amont, on sait à peu près ce qu'on veut trouver et à peu près où chercher. Et ensuite, on descend avec un équipement qui est assez léger, donc c'est l'équipement de plongée qui est quand même toujours un peu volumineux et lourd. Mais après, l'équipement d'archéologue, c'est un simple filet, une planchette en PVC avec un cran de papier pour écrire dessus, de quoi mesurer, donc mètre pliant, double décamètre. Et puis après, l'accessoire qui est indispensable à Dunkerque, c'est le phare de plongée parce que c'est très sombre. On descend en palanquée de 3. Donc 3 personnes, un plongeur de Dunkerque qui en général connaît bien l'épave, donc qui va nous guider. En fait, on pourrait faire sans les plongeurs de Dunkerque, mais grâce à eux, on va beaucoup plus vite. Donc ils nous aident à trouver les éléments qu'on veut, une archéologue, donc Claire ou moi, et puis un photographe vidéaste qui va aussi permettre d'enregistrer tous les détails qu'on aura vus.
Alors aujourd'hui, on est parti de Dunkerque il y a une heure environ, on va pas tarder à être sur la zone de la première plongée. Quelles épaves vous allez observer et plonger, comme vous dites aujourd'hui?
Alors du coup, ce matin, on va partir sur un chalutier qui s'appelle le Stella Dorado, qui a été construit en 1935. Et qui a été réquisitionné en 1939 par la Royal Navy et équipé pour la lutte anti-sous-marin. Lors de l'opération Dynamo, c'est un navire qui a fait pas mal de patrouilles sur la route Y, donc c'était la route la plus qui passe par la Belgique avant de revenir vers l'Angleterre, qui a été ouverte en deuxième quand la route utilisée en temps de peine a plus été possible de l'utiliser en journée. Et donc c'est un navire qui patrouillait pas mal pour prévenir des attaques anti-sous-marins. Il a d'abord récupérer une partie des naufragés du Sirocco le 31 mai 1940 et il a pu ramener en Angleterre 22 hommes. Et le lendemain, le 1er juin, alors qu'il était en patrouille, il est touché par une torpille depuis un schnellboot et il a coulé. Et les 5 survivants ont été récupérés par un autre chalutier anti-sous-marin. C'est une épave qui a été identifiée par les plongeurs par sa cloche.
Alors ça, c'est le Stella Dorado et il y a une deuxième épave, je crois, qui va être plongé, observé aujourd'hui par vous, par Cécile Sauvage et puis par les plongeurs du club de plongée de Dunkerque. D'ailleurs, Cécile Sauvage, ces plongeurs-là, ils ont un rôle intéressant. Moi, je trouve qu'il y a une dimension à la fois de partenariat, de collaboration, mais aussi de pédagogie que vous réalisez auprès d'eux. Et ensuite, eux-mêmes vont transmettre la bonne parole archéologique aux personnes qu'ils accompagneront sur ces épaves.
Oui, l'idée c'est vraiment effectivement de faire un partenariat qu'on a lancé donc depuis l'an dernier avec le club de plongée de Dunkerque. Nous, ça nous fait gagner du temps. Eux, ça leur permet de découvrir là des sites qui sont très loin de la côte sur lesquels ils plongent pas avec leur navire de plongée. Donc c'est bénéfique pour tout le monde. Et après aussi, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que au Drasme, par exemple, on a quasiment 8000 sites qui sont inventoriés aujourd'hui dans les eaux françaises. 8000 sites, on est 15 archéologues, on se doute bien que ça va être compliqué d'être derrière chacune des épaves. Donc quand on commence à faire ce genre de travail d'inventaire, l'idée c'est qu'ensuite on puisse on fait un premier état des lieux et qu'ensuite les clubs de plongée puissent aussi suivre l'évolution des sites, nous signaler qu'une partie de l'épave s'est affaissée, faire des photos, signaler qu'il y a un chalut de pêche qu'on retrouve maintenant sur l'épave qu'on ne voyait pas avant. Donc c'est vraiment d'impliquer aussi tous ces plongeurs qui parfois dans le secteur plonge pour voir surtout de la biologie marine. Là, l'idée c'est aussi de les embarquer sur l'archéologie sous-marine.
Alors Claire Destanque, la deuxième épave, la fameuse deuxième épave, quelle sera-t-elle?
Alors l'épave de cet après-midi, c'est l'Aboukir, un caboteur qui a été construit en 1920. Il a été réquisitionné pareil en 1940 pour les besoins de la guerre. Il a été transformé, c'est-à-dire qu'il y a eu un canon qui a été mis sur l'avant et son pont a été renforcé de dalles de béton pour le protéger des tirs de mitrailleuses ennemies. Et c'est un navire qui, lors de l'opération Dynamo, transportait des soldats et des réfugiés depuis Ostende en Belgique vers le Royaume-Uni. Et il a été torpillé le 28 mai sur la route Y, pareil, c'est le premier navire à avoir été torpillé. Et donc, c'est la marine ennemie, à ce moment-là, s'est rajoutée à la liste des menaces qui était déjà assez conséquente, puisqu'il y avait l'aviation ennemie qui sévissait fortement, mais aussi les tirs de batterie côtière depuis la côte. Et puis, le fait que l'opération s'est fait un petit peu dans la précipitation. Donc, par exemple, il y a d'autres navires qui ont coulé à la suite de collisions entre eux, ou alors ils ont percuté des mines alliées, puisque c'est vraiment une zone où les Alliés en 39 avaient mouillé des mines pour empêcher les Allemands de passer.
Qu'est-ce que vous pouvez faire et ne pas faire en tant qu'archéologue sur ces épaves? Est-ce que vous pouvez faire des prélèvements? Pas du tout. Comment ça se passe? Parce que je crois qu'il y a un statut un peu particulier pour ces épaves-là, Cécile Sauvage.
Alors, en fait, déjà de manière générale, sur les épaves, quelle que soit leur chronologie et leur nationalité, le principe aujourd'hui, c'est de préserver in situ. Donc, on ne prélève pas. Si on fouille une épave romaine et qu'on veut prélever une amphore, il faut déjà s'assurer qu'il y ait un musée qui soit d'accord pour la restaurer, pour la conserver, parce que tout prélèvement en fait a des conséquences. En fait, il y a un objet qui a passé des dizaines ou des centaines d'années sous l'eau. Si on le sort de son milieu, son environnement actuel, brusquement, il va commencer à se dégrader. Ça, c'est le principe général. Ensuite, ce qui est particulier sur des épaves contemporaines comme sur l'opération Dynamo, c'est qu'on va avoir des navires de guerre parfois, ou des navires civils mais réquisitionnés par exemple l'amirauté britannique pendant le conflit, donc ils sont sous pavillon britannique ou sous pavillon français quand c'est des navires français. Mais là, pour les navires de pavillon britannique, en fait, si on voulait faire n'importe quel prélèvement, il faudrait bien sûr demander l'autorité aux Britanniques, puisque la France reconnaît le droit du pavillon, donc ces navires appartiennent toujours à l'amirauté.
Si on ne peut pas faire de prélèvement, si on ne sort pas les épaves, du coup, comment est-ce que vous allez proposer un travail de synthèse archéologique qui permettra d'être accessible au grand public, et quelles seront les suites finalement de ce genre de plongée que vous allez réaliser aujourd'hui?
Là, l'idée vraiment de ce projet, c'est la sauvegarde par l'étude. C'est on enregistre les données avec différents outils, donc le multifaisceau, la vision d'ensemble, les plongées, les photos, la vision de détail. Et en fait, l'idée, c'est de collecter toutes ces données, de les publier d'un point de vue scientifique pour qu'elles soient connues par les scientifiques, mais aussi de faire toute des séries de projets de valorisation pour que ça soit accessible absolument à tout le monde, aux gens de la région de Dunkerque, mais aussi plus largement. Donc il y a un projet de site internet qui est en train d'être réalisé en partenariat avec le parc éolien en mer de Dunkerque. Il y a des projets de fiches pour les plongeurs, pour les promeneurs. Donc on a différents outils qui vont se faire en français, en anglais, pour que ce patrimoine puisse être connu de tous. On l'a fait aussi sur les épaves du débarquement en Normandie, où Teddy Seguin a réalisé des vidéos 360. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse, tout à chacun puisse s'immerger sur ces épaves sans même savoir plonger. Et découvrir qu'en fait, au large, y a des centaines ou des dizaines de vestiges qui ont 80 ans, qui ont toute une histoire.
Du coup, je vous laisse aller vous préparer parce qu'on va pas tarder à aller plonger. Enfin, je vais pas plonger, mais vous allez pas tarder à aller plonger sur le Stella Dorado. Je vous retrouve après, puis on va faire le bilan de cette première plongée de la journée.
T'as reçu Pierre-Marc?
Oui.
Donc là, on a vu que le sonar était bon, on est bien sur l'épave, donc du coup on va préparer les balisages. Donc balisage, une gueuse, du bout et deux bouées en surface. Deux bouées qui permettent de voir comment est le courant, comment est le vent. Comme ça pour la présentation du bateau. Pour le pilotage, en fait c'est des indications en surface. Pour nous aussi, pour voir, tiens, il y a trop de courant, il n'y a pas assez. Enfin voilà, on peut envoyer les plongeurs, voilà, il y a beaucoup de courant. Christian Perrou. Donc chef d'opération Hyperbar, en fait COH. Le chef d'orchestre, on va dire, plage arrière pour les plongées, en fait, donc on gère le temps de plongée des palanquées, on leur fixe les paliers, enfin donc c'est nous qui leur disons ce qu'ils doivent faire, voilà, le temps, voilà, les maîtres du temps, on va dire, qu'ils doivent respecter évidemment.
C'est un peu le branle-bas de combat, là.
Ouais, c'est la préparation. En matériel, on vérifie d'abord que nos blocs soient bien gonflés. On plonge avec des mélanges à l'air oxygéné, qu'on les a contrôlés avant. Et on règle nos ordinateurs de plongée, toujours vérifier qu'ils soient bien avec le bon mélange oxygéné. Et après, double lampe, toujours la sécurité, deux masques, deux phares, un fil si la visibilité est mauvaise, parachute de sécurité, et puis voilà, quoi.
Ouais, on est paré, la première palanquée est parée.
C'est un épreuve final.
Surface, deuxième palanquée.
Ok, 8h49.
Ouais, bien reçu.
Ça y est, c'est parti.
Ça y est, c'est parti, ouais. Donc maintenant, un peu de patience. On a donc, ouais, ils sont partis pour 20 minutes de plongée, là, après, un petit peu de palier, à peu près une demi-heure, après, de patience, voilà. Et de veille, attentive, oui. Parce qu'il y a des gros bateaux qui tournent.
Là, du coup, on n'a plus qu'à attendre et faire des mots croisés, quoi, c'est ça?
Ouais. Les mots croisés obligent à avoir les yeux baissés, non, là, il faut regarder la ligne d'horizon, la ligne d'horizon et surtout ce qui se passe autour des bouées, là. Ouais.
Il y a du passage, hein.
Là, l'épave, elle a combien de profondeur, celle-ci?
Là, elle est à 32 qu'on a vu tout à l'heure au sondeur, ouais, 32 au sondeur, elle remonte de 4 à 4-5 mètres à peu près, là.
Donc il y a combien de temps de descente à peu près là, c'est
bah là on a vu à peu près, ils mettent moins de 2 minutes à descendre à peu près tranquillement. Ouais. Et après, ils font. Après c'est la remontée qui est hyper importante parce que là on doit respecter la vitesse de remontée pour ne pas faire un accident. Et on remonte ouais, 17 mètres par minute à peu près pour remonter. Et après c'est ça qui est compliqué à voir, on a l'image sondeur. Après ça reste des temps qu'on va fixer pour qu'il y ait du travail. Et l'archéologue, il faut qu'il ait du temps. Donc il faut conjuguer tout. Après, effectivement, là, si on basculait à plus de 20 minutes, tout de suite, ça fait un autre palier à 6 mètres. Maintenant, ça fait deux paliers consécutifs. Après, c'est long, comme ils sont assez profonds. Après, suivant la consommation, il fait froid. Enfin, après, c'est la bouteille qu'on emporte avec nous. Après, bouteille d'air, la réserve d'air, on va dire, effectivement, qu'il faut maîtriser après. Donc, voilà. Et puis, surtout qu'on a une deuxième plongée cet après-midi. Après, donc voilà, le but, c'est de tenir sur la longueur. Quelle heure tu as à ta 16 tout pile, reçu.
Tu peux avant 16.
Non. Allez hop, récupération.
Tu jettes un coup d'œil sur les autres écoutes.
Ouais, ça marche.
Normalement, on va voir si. Là, on a qui là.
Ils vont pas tarder. Teddy monte avec ses petits bras musclés, lui, donc. Ouais, juste récupérer peut-être l'appareil photo.
D'accord. J'arrive.
Ah ouais, nous, on tranquille. Donc là on va s'approcher du bateau et puis hop il va mettre un petit coup de klaxon comme ça les plongeurs vont venir
s'accrocher.
On peut venir s'accrocher ouais, pour pouvoir se rapprocher du bateau. Pour eux ça les. Ils savent que c'est débrayé donc les pas d'hélice qui tournent. C'est... Ils arrivent comme ça. Ça va bien? On verra après pour la voie, il faut qu'on aille récupérer les autres.
Ouais, ouais.
Et vous êtes contente de cette plongée là? Oui. Je vous attrape à la sortie de l'eau en combinaison.
Oui, je suis contente, oui. C'est après, donc la partie sur laquelle on a plongé, la proue, il y a eu l'impact de la torpille juste à l'arrière. Donc en fait, il n'y a qu'une quinzaine de mètres à voir, c'est assez réduit. Donc il y avait peu de détails intéressants à documenter du point de vue archéologique. Il y avait une petite ancre qu'on a mesurée, un treuil, des panneaux de cale. Mais après, oui, c'est aussi le. L'ambiance de la plongée était plutôt agréable, plutôt sympa.
Je vous laisse prendre le temps de vous désarnacher.
Merci. On fait nos comptes rendus de plongée. Parce que là, comme on enchaîne un peu les plongées, si on attend pour retranscrire nos notes, on ne sait plus ce qu'on a vu. C'est quand on le fait à chaud, c'est mieux. On se souvient de plus d'éléments. Alors, on est arrivé directement sur la proue. On est arrivé sur l'étrave, on avait bien photographié l'étrave. Après, on a regardé, il n'y avait pas d'encre à bâbord. Puis on est allé sur tribord où il y a une petite encre. Vraiment petite parce qu'elle fait 78 cm de largeur. Et seulement 70 de haut. C'est vraiment petit, je trouve, pour un bateau de taille. Elle est dans les cubiers, c'est pas une encre de secours. Après, on est allé sur le Gaillard d'avant, en fait, où il n'y avait pas grand-chose. Et ensuite, on est allé... On est descendu derrière. On pouvait voir un peu les structures en dessous du Gaillard d'avant. Et là, il y avait un petit treuil.
OK.
Mais petit. Je ne l'ai pas mesuré. Et ensuite, on a regardé un petit peu la cassure, etc. Et on a vu que sur bâbord, la proue sur bâbord, il y a pas mal de... de manques qui sont dus à la corrosion. Je remarque ça.
Quand vous plongez comme ça, le temps est quand même vraiment compté. Vous accordez une priorité à quoi ? Qu'est-ce que vous allez chercher à observer en priorité ?
Bah là, on cherche... en fait, grâce à l'image qu'on a fait au sondeur multifaisceau il y a 2 ans, on a la vision d'ensemble du site. On sait combien il mesure en longueur, en largeur. On voit déjà l'état de conservation global du site. Il y a l'impact de la torpille au milieu, ça, on le voit. Donc ça, on n'a pas besoin de le remesurer ou de le revérifier. Ce qu'on va aller chercher, c'est des aimants de détail. Les ancres, les gains d'eau, l'artillerie s'il y en a, l'hélice ou les hélices s'il y en a, la motorisation, les blocs moteurs, les chaudières. Et en fait, tout ça, on essaie de mesurer, de faire des photos. Ça, c'est des choses qu'on retrouve dans les archives. Donc même si ces épaves, globalement, elles sont bien identifiées, ça vaut toujours la peine de revérifier si ça correspond bien. Ou parfois, il y a des inversions. Là, on a 5 ou 6 chalutiers sur lesquels on a plongé. Il pourrait y avoir une inversion. L'un pourrait être pris pour l'autre. Donc ça vaut la peine de revérifier. Ouais.
Claire, toutes ces épaves, vous les avez documentées pour votre travail. Alors là, quand vous vous confrontez à la réalité, ça fait quoi de passer de la théorie à la pratique, on va dire ?
C'est vraiment une chance incroyable d'avoir pu travailler sur les épaves dès le début du point de vue historique, parce que du coup, connaître leur histoire, c'est vraiment plein de petites histoires dans la grande histoire de Dynamo. Elles ont toutes une histoire très particulière. Elles ont coulé pour des raisons différentes, dans des circonstances différentes, etc. Donc déjà, les connaître par les archives, c'était super intéressant. Et puis, plonger dessus, c'est vraiment très différent, puisqu'on ne va pas les voir dans leur ensemble, on va les voir petit bout par petit bout. À Dunkerque, la visibilité, elle est... Alors là, on est très content de la visibilité, et c'est 4 mètres. Donc voilà, c'est 4 mètres par 4 mètres, sur une épave qu'on fait 50, et voire on en a des plus grandes. Mais c'est vraiment super de pouvoir retrouver des éléments de détail qu'on a vu au multifaisceau, de voir l'état de conservation. Et puis ça ne va pas s'arrêter là, puisqu'il y a plein de projets de valorisation qui sont prévus ou en cours. Et du coup, vraiment pouvoir travailler sur un projet du début des recherches jusqu'à la valorisation, c'est une chance inouïe et j'en suis très très reconnaissante.
C'est déjà l'heure du bilan de cette journée. Là, vous êtes remonté de votre deuxième plongée. La fatigue doit être là, la faim aussi. Je ne vous embête pas longtemps, mais je voudrais savoir comment ça s'est passé cette deuxième plongée, ce que vous avez vu et si c'est une journée satisfaisante pour les archéologues que vous êtes.
La deuxième plongée, c'était une très belle plongée. Nous, on était à la palanquée qui était à la poupe. Donc on est tout de suite tombé sur vraiment l'extrémité arrière du navire. L'hélice très bien conservée, magnifique, en place, avec le safran. Donc le photographe a pu faire des belles photos avec l'ensemble de l'arrière qui est bien préservé. Puis après, quand on passe par-dessus, au niveau du pont, en fait, au départ, les structures sont plutôt bien conservées. Puis après, plus on avance, et plus le pont, en fait, du pont n'apparaît que la structure. Donc toutes les parties planes ont disparu. Donc l'épave est, de mon point de vue, plutôt moins bien conservée que celle qu'on a vue auparavant, comme les chalutiers qu'on a documentés ces derniers jours. Mais bon, ça reste une belle épave, il y avait une très belle visibilité.
Claire, c'est le même constat à la poupe ?
Moi, j'étais à la poupe. effectivement, très belle visibilité et c'était assez étonnant. Comme le disait Cécile, elle est moins bien conservée que celle de ce matin. Moi, à la proue, c'est vraiment que le squelette métallique. J'avais pas beaucoup d'éléments de coque, donc c'était un peu difficile de définir où était l'étrave du navire. Voilà, c'était pas très clair. Mais sur l'avant, j'ai quand même vu un beau double treuil qui servait à relever un mât de charge. Et puis une ancre qui était posée sur le pont, assez relativement conséquente, avec une petite ancre juste posée par-dessus, toute petite sur la grande ancre.
Là, l'objectif de la mission est quand même pleinement atteint, parce que l'une des idées cette année, c'était vraiment d'aller documenter toutes les épaves qui sont vraiment loin de la côte, parce que ces épaves-là, c'est plus difficile d'aller les documenter avec un navire comme celui du club de plongée. Et donc là, on a une très belle fenêtre météo qui nous permet de couvrir au moins toutes ces épaves. S'il nous en reste une ou deux à faire près de la côte, c'est pas très grave.
Je vous souhaite tout le meilleur. Merci beaucoup pour votre accueil à bord de ce bateau, parce que c'était vraiment une journée merveilleuse. Merci.
Merci.
Notre exploration du passé touche à son terme. Un grand merci à toute l'équipe et à la technique Éric Perruchot-Triboulet. Merci à nos partenaires l'INRAP et l'INA. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une nouvelle exploration du passé au présent.